Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Régis Jules Debray.
Elsa Boublil.
L'intellectuel est si souvent imbécile que nous devrions le tenir pour tel jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire.
Georges Bernanos.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
C'est sur cette chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens que nous vous accueillons, Régis Debray, philosophe, essayiste, fondateur de la médiologie intellectuelle turbulent. Vous aviez signé chez Gallimard Bilan de faillite, un opus dans lequel vous vous adressez à votre fils Antoine, 16 ans, vous, dans le rôle de conseiller d'orientation, retraçant votre itinéraire politique et idéologique, un acte de transmission perspicace, un bonbon qui se dévore à l'affût de l'histoire que vous avez traversée et du bilan que vous en tirez modestement. Beaucoup d'humour, de recul, d'envolée, encore, et c'est ça qui est bon dans cet ouvrage qu'on relit avec délectation. Bonjour Régis Debray.
Bonjour.
Alors c'est une joie, bien sûr, de vous recevoir suite à la lecture délicieuse, comme je disais à l'instant, de ce bilan de faillite. Et puis pour commencer, pour vous accueillir, cette chanson de Georges Brassens qui, je trouvais, vous allait bien.
Écoutez, vous avez bien choisi parce que c'est un peu, je dirais, la toile de fond. Je ne dis pas le bruit de fond, mais le fond sonore de mon enfance et de mon adolescence. C'est une chanson, j'imagine, des années 50.
54, composée en 54, interprétée en 55.
Oui, c'est ce que j'écoutais quand j'avais 13 ou 14 ans. C'était l'époque du cinéma en noir et blanc, des faubourgs d'une certaine gouaille anarchisante, très terroir, très française, et qui faisait vivre la poésie, qui faisait revivre la poésie avec ce qu'on appelle la chanson de texte. Donc, ma foi, c'était le monde ancien, celui qu'on n'aime plus, que vous ressuscitez.
Et que vous citez quand même pas mal dans Bilan de faillite. La chanson à texte vous a nourri.
Citez
Aragon, Ferré.
Oui, oui. Bah, écoutez, vous savez, la gauche jadis était lyrique. Donc elle aimait les chorales, les chansons. Alors ça pouvait aller des chœurs de l'Armée rouge jusqu'à Brel ou Brassens. Mais donc c'est vrai qu'il y avait là une sorte de chaleur un peu communautaire, une sorte d'entre-soi national, je ne dirais pas prolétarien, mais en tout cas quelque chose qui nous faisait vivre en accord avec notre histoire.
Si la gauche était lyrique, votre bilan de faillite l'est et reste lyrique. C'est un grand plaisir de vous lire. Je voulais vous interroger avant qu'on passe à la suite sur cette phrase de Bernanos que vous avez citée pour commencer l'émission et qui sera le jalon de cette émission. L'intellectuel est si souvent imbécile que nous devrions le tenir pour tel jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire. On va essayer de s'y coller.
Oui, en fait, c'est une autocritique. Non pas que j'étais tellement imbécile, mais quand j'étais intellectuel, il y a très longtemps, j'ai quitté cette fonction depuis au moins une dizaine d'années, mais quand j'étais intellectuel, j'ai d'ailleurs pas dit tellement de bêtises. Mais mes confrères, mes collègues, en ont dit un certain nombre. Non, si vous voulez, c'est pas que l'intellectuel est un imbécile politique, même s'il peut y avoir beaucoup de désastres concrets qui sortent de grands enthousiasmes intellectuels. Mais c'est parce qu'il y a une superstition de l'intelligence, une arrogance de l'intelligence, une sorte de vanité très française de l'esprit qui se croit supérieur, voilà, et qui oublie qu'il y a en dessous de l'intellect le monde sensible, tous les soubassements, je dirais, neurovégétatifs, qui produisent de l'émotion, donc du mouvement. Donc, je veux dire par là que il faut rabattre le caquet des intellectuels et il faut rabattre le caquet de l'intellectuel qu'on porte en soi, parce qu'on a beau se défaire du rôle, ça colle.
On va essayer de porter de l'émotion ce matin avec vous, Régis Debray, puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi toute la matinée.
Oh,
Le trio Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso de Così fan tutte de l'acte 1, Soave e Sia il vento de Mozart, Teresa Stitch-Randall, Teresa Berganza et Marcello Cortis, pour démarrer cette émission avec vous, Régis Debray, puisque je crois que c'est votre premier souvenir de musique classique. On a commencé avec la chanson, mais au fond, la musique classique, c'est à peu près la même
époque.
Oui,
alors avant, on était dans l'enfance, là maintenant, c'est l'adolescence, puisque 57, j'ai 16 ans, et mes parents m'amènent chaque année au Festival d'Aix, au mois de juillet.
Ah ben voilà, c'est un enregistrement d'Aix-en-Provence.
Eh ben, c'est exactement cette atmosphère qui me fait souvenir à la fois d'une époque et d'une saison. Et je dois dire que donc tout était mozartien, n'est-ce pas? Je me souviens de Gabriel Dussurget, qui était directeur du festival. Et on était dans le culte de Mozart, bien sûr. Mozart qui est pour moi un tempo, une atmosphère, un rythme, disons. Là, c'était plutôt de l'andante, ce qu'on écoutait, je crois. Mais il y a un côté allegro molto chez Mozart, qui est celui, je dirais, du XVIIIe siècle. Au fond, Mozart, pour moi, c'est une musique d'avant le tragique. C'est une musique d'avant la Révolution française, d'avant l'éruption de l'histoire avec un grand H, avec une grande H. Donc, Mozart, c'est une sorte de, pour moi, de rêverie un peu idéaliste, très proche au fond de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait être le style de Voltaire ou le style de Laclos ou, disons, la guerre en dentelle. Avant que la douleur n'arrive, avant que la douleur viendra avec le Requiem. Mais là, on est vraiment dans une sorte de monde idyllique, de monde qui n'a pas encore connu la tragédie, et c'était moi-même, j'écoutais tout ça avant de découvrir le monde réel.
C'est ce que j'allais vous demander, Régis Debray, c'était votre cas, c'est une enfance idyllique?
Écoutez, oui, j'ai eu une enfance très protégée, une enfance de la moyenne bourgeoisie, honorablement cultivée, où au mois de juillet, il fallait être à Aix-en-Provence pour admirer Teresa Stitch-Randall ou Teresa Berganza ou les deux ensemble.
C'était nos deux
références, je ne dirais pas idoles. La mode n'était pas encore à l'idolâtrie. Mais enfin, c'était une période heureuse, on peut dire.
Avec la musique très présente.
Avec la musique du bonheur.
Le petit chanteur à la croix de bois qui chantait la chanson de Solveig pour évoquer cette enfance musicale, Régis Debray, où je crois vous avez vous-même été chanteur au petit chanteur à la croix de bois.
J'ai envie de dire comme tout le monde, dans mon milieu ou dans mon lycée, qui était chanson de Saïd, car en fait, je chante faux.
Ah bon ?
Je n'ai pas d'oreille. Vous m'avez invité par erreur, mais la vie est faite de malentendus, donc j'en profite. Mais effectivement, je me souviens qu'on avait une robe blanche, et je me souviens d'un voyage que nous avions fait à Rome, où j'ai assisté à une grande messe à Saint-Pierre, et où j'ai vu de mes propres yeux Pie XII, qui vivait encore, qui était pour nous un saint. Nous vivions, nous regardions Pie XII. On n'avait pas encore vu Amen de Costa Gavras.
Ah.
Et on avait oublié les silences de Pie XII.
Des tragédies de l'histoire.
Sur les tragédies de l'histoire, mais je me souviens de cette vue d'un grand homme en blanc. Nous étions tous en blanc, innocents. Enfin, nous.
Vous. Je voulais en parler avec vous parce que, d'abord, c'est important. Et puis, il y a aussi cette volonté. D'ailleurs, quand je vous ai fait entendre le début de la chanson, vous m'avez dit, ah tiens, c'est étonnant. Ah oui, j'ai oublié que j'avais été petit chanteur à la Croix-de-Bois. Et vous l'écrivez dans Milan de faillite. Ce fut longtemps ma volonté d'effacer l'enfance. Pourquoi ?
Parce qu'elle n'a rien de glorieuse, parce qu'elle est banale, parce qu'il ne faut pas être, je dirais, dupe, il ne faut pas être victime de son enfance. Je veux dire qu'il faut à un moment donné s'envoler, partir ailleurs. Mais vous savez, c'est très prétentieux ce que je dis, car c'est peut-être en voulant oublier son enfance qu'elle vous hante en réalité. Hein, mais je n'ai jamais fait de psychanalyse, donc je peux me vanter de n'avoir pas d'enfance. C'est le bonheur de ne pas être psychanalysé.
L'oublier ou la transgresser, Régis Debray ?
Les deux, mon capitaine. Les deux. Mais cela dit, il se trouve que je n'ai pas de souvenirs marquants de mon enfance, mais qu'elle me revient parfois, mais dans des détails infimes. Mais vous savez, l'enfance d'un petit Parisien du 16e arrondissement, rue de Lubeck, qui fait ses devoirs le soir, c'est un peu gris, c'est un peu banal, donc je ne vois pas l'intérêt de verser une larme sur cette période sans doute, je dirais, inévitable, mais qui n'a rien de, je dirais, d'original.
Thank you.
le Boléro de Ravel revisité par Jacques Loussier, Benoît Dunoyer de Segonzac à la basse et André Arpineau à la batterie. Une version jazz du Boléro de Ravel, comme Jacques Loussier savait si bien le faire. Pour évoquer votre rencontre avec le Boléro de Ravel, Régis Debray, puisque ça fait partie de vos moments musicaux importants dans votre vie.
Oui, par l'entremise du ballet, j'avais été très impressionné par le Boléro de Béjart, qui lui avait donné une puissance à la fois érotique et mystique. Et vraiment, j'avais été très ému par ce spectacle. Ensuite, j'ai connu un peu Béjart. D'abord parce que je lui parlais de son père, Gaston Berger, que j'avais un peu lu. Et puis ensuite, il m'avait même demandé un argument que je lui ai fait, d'ailleurs. Ça s'appelait « L'enlèvement d'Europe ». Voilà, je me souviens. Et puis, il a dû faire autre chose. Mais on est toujours resté un peu liés, comme ça. Et effectivement, c'est une musique qui s'impose d'elle-même, en sorte qu'on peut la... Je dirais la reprendre sur tous les registres, et notamment le registre jazzy, qui m'évoque évidemment ce qui se faisait à l'époque. Moi, ça m'évoque Dave Brubeck,
oui,
le grand pianiste de jazz.
Oui, américain. C'est la même époque d'ailleurs.
Parce qu'à l'époque, dans ma préhistoire, j'aimais le jazz, mais un jazz qui ne se pratique plus aujourd'hui. Si je vous parle de Sidney Bechet ou de Claude Luther au tabou, années 50, évidemment, ça va vous paraître un peu l'ère des dinosaures.
Et qu'est-ce qui vous plaisait dans la...
Mais, et d'ailleurs, il y avait encore Boris Vian,
oui,
qui, de temps en temps, un petit coup de trompette. Oui, j'allais passer mes week-ends à écouter du jazz.
Parce qu'on parlait de la transgression tout à l'heure. Le jazz, c'est typiquement la musique qui transgresse le format.
Oui, c'était une musique pour sortir de l'enfance, ça c'est certain. Et même pour sortir du 16e arrondissement.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et c'est pour sortir du 16e arrondissement, Régis Debray, que vous avez rencontré Fidel Castro?
Non, c'est un résumé un peu succinct tout de même.
Bien sûr. Non, mais comment ça s'est passé, cette rencontre?
Oh, mais c'est une longue affaire. Je suis parti à Cuba en 61, après j'ai erré en Amérique latine entre 63 et 64, après je suis revenu à Cuba en 65. Bref, je fus longtemps une sorte de latino-américain errant en Amérique du Sud, passant de pays en pays, acquérant donc un certain savoir, une certaine connaissance des différents mouvements de lutte armée dans différents pays, ce qui m'a amené à rédiger un petit compte-rendu dans les temps modernes qui est tombé dans les mains de Guevara à Alger et lequel l'a transmis à Fidel. Et Fidel m'a invité à la tricontinentale. Nous étions alors en 65 ou 66, je ne me rappelle plus, voilà. Mais c'est une longue affaire. Et aujourd'hui, oui, tout est star system, donc on accroche à des noms emblématiques comme cela, ce qui était un mouvement collectif, un mouvement révolutionnaire multiforme qui se développait dans toute l'Amérique latine pour lutter contre les dictatures et contre l'Empire américain, lequel appuyait les dites dictatures. Donc, ce sont plusieurs années qui ont fait, effectivement, que je me suis retrouvé, je dirais, dans l'intimité de Fidel Castro.
Thank you.
Ernesto Lecuona, la comparsa, c'est une danse afro-cubaine interprétée par Simon Graichi. Pour évoquer cette période avec vous, Régis Debray, cette période en Amérique latine, les souvenirs que vous en gardez, la musique qui semble pas du tout être celle qu'on vient d'écouter, qui était beaucoup plus...
Elle était présente, la musique, pas cette musique-là, qui est du cubain...
Revisité
par Manhattan, pour les bobos parisiens. C'est une musique totalement anachronique, si l'on se place dans les années 60 et 70. Mais effectivement, il y avait une musique populaire dont, je dirais, la révolution s'occupait assez peu. Le boom de la musique cubaine est venu après. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais vu Castro danser, et le Che encore moins.
Ouais.
C'était totalement étranger à ce monde-là. Bon, il y avait le Tropicana, valait dire, pour les touristes, mais il n'y avait pas de touristes à cette époque. Et donc, cette musique, je vais tout vous dire, je l'ai découverte après. Non, moi, j'ai découvert la musique latino-américaine à travers, par exemple, quelque chose qui était accroché à d'autres territoires. Je pense à la Misa Criolla, parce que c'était la flûte indienne, c'était un autre monde. Mais, vous savez, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'Amérique latine, et chaque Amérique latine a sa musique.
Et il y a Cuba.
La musique cubaine, elle existe aussi en Colombie, au Venezuela. C'est la musique des Caraïbes. Et puis, elle s'est exportée, et tant mieux.
Vous gardez... Quel souvenir de cette période, j'imagine, énormément de souvenirs, mais vous dites à votre fils dans Bilan de faillite, ce qui nous rassemble est ce qui nous dépasse, mais ce qui nous dépasse n'a souvent ni queue ni tête. Je me suis dit qu'au fond, ça pouvait résumer peut-être un peu ce que vous en gardez.
Non, c'est le résumé de 3000 ans d'histoire.
Ouais.
Je vous dis ça très modestement. À savoir que ce sont les mythologies qui font bouger les hommes, et ça peut être la religion révélée, ça peut être une mythologie historique ou une religion séculière, comme peut l'être le communisme à un moment donné. Autrement dit, c'est une transcendance qui échappe à la rationalité, voilà. Et c'est ça ce qui fédère, c'est ça ce qui entraîne, c'est ça ce qui... fait bouger notre carcasse, voilà. Et donc, c'est ce mouvement vers ce qu'on peut appeler une utopie, si vous voulez, qui vient secouer le cocotier. Ça peut être mai 68 aussi, si vous voulez.
Mais surtout croire en quelque chose.
L'important, effectivement, est de s'arracher au réel immédiat au nom d'un rêve plus ou moins bien argumenté.
Le Liberame du Requiem de Fauré par l'Orchestre National de France, le chœur Accentus et la Maîtrise de Paris sous la direction de Laurence Equilbé. Un Requiem qui aurait été écrit pour rien, pour le plaisir, si j'ose dire, disait de son Requiem Gabriel Fauré. Que je voulais commenter avec vous, Régis Debray, puisqu'il fait partie des œuvres qui comptent.
Ah, je dirais plus que cela. La musique sacrée ou dite sacrée est à peu près la seule que j'écoute. Vous savez, c'est cette musique qu'on écoute avec la gorge plutôt qu'avec les oreilles. C'est-à-dire, c'est une musique qui nous plonge, qui nous met en relation avec l'invisible et qui parle de l'intérieur de l'invisible, c'est-à-dire c'est la perception de l'intériorité par l'intériorité. Autrement dit, c'est la seule musique qui peut nous parler de la mort. Donc j'ai un culte pour les Requiem, un culte tout, je dirais, tout profane pour la musique sacrée, car je ne suis pas croyant, mais je ne suis pas non plus sceptique. Et ce qui me plaît en particulier dans ce Liberame, et en général dans le Requiem de Fauré, c'est sa douceur. C'est une mort apprivoisée, une mort sans effroi, une mort sans douleur, qui est très symptomatique d'un glissement, si vous voulez, théologique, c'est-à-dire d'une humanisation de Dieu, qui n'est plus le Dieu juge, hein, qui est le Dieu amour. Et donc, chez Fauré, il n'y a pas de dies irae. Il n'y a pas de jugement dernier. Il n'y a pas de terreur. Il n'y a pas l'apocalypse, si vous voulez. Et donc, c'est cette humanisation du christianisme, je dirais, d'un terme un peu savant, cet arianisme, c'est-à-dire cette hérésie pour laquelle Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus est un homme, voilà. Cet apprivoisement, cette familiarité, cette sorte de compassion douce avec le trépas, c'est quelque chose que Fauré exprime dans une langue très pure. Vous savez, pour moi, il y a deux sortes de musique. Il y a la musique qui nous déleste de notre corps, c'est la musique sacrée, la musique de l'esprit. Et puis, alors, il y a une musique du corps, qui est, disons, la musique de jazz, la musique dite de variété, qui nous, je dirais, qui nous rend notre corps. Mais ce genre de musique sacrée que nous venons d'écouter, elle nous met dans un état second, dans un autre monde, dans une sorte d'extase silencieuse, et qui il est très difficile de rendre par des mots. Je pense que j'ai toujours considéré que les discours d'escorte de la musique sont des discours creux, comme celui que je tiens en ce moment d'ailleurs,
pas certain,
parce qu'on ne met pas de mots sur un frémissement.
En tout cas, Fauré disait lui-même dans une interview qu'il a donnée en 1904 au sujet du Requiem, « Cela fait si longtemps que j'accompagne à mon orgue des services d'enterrement. Peut-être ai-je aussi d'instinct cherché à sortir du convenu. » Et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant,
oui.
Régis Debray.
Oui, oh, c'est une révolution dans la transcendance. C'est-à-dire, ça remet le transcendant dans notre vie immanente, dans notre vie sentimentale, sans la terreur qu'inspire le jugement dernier.
Dans Bilan de faillite, vous vous adressez donc à votre fils Antoine, et dans le deuxième chapitre, vous dites « Tu connais mon goût pour la crème de marron, les calembours et le Requiem de Fauré. Tu lis parfois mon nom dans un journal, mais tu as du mal à cerner le sujet. Je ressens la même difficulté. »
Thank you.
Le scherzo de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par la Chambre Philharmonique sous la direction d'Emmanuel Krivine, un compositeur qui a su s'imprégner des musiques indiennes et des chants noirs en composant cette œuvre, cette symphonie numéro 9, et que j'ai voulu prendre pour illustrer notre conversation, Régis Debray, par rapport à ce nouveau monde dans lequel nous sommes, que vous décrivez, et qui ne correspond pas plus, en tout cas, à ce que vous aviez espéré.
Donc, il y a deux nouveaux mondes, il y a celui du Nord et celui du Sud. Et là, évidemment, nous sommes vers le nouveau monde heureux, le nouveau monde industriel, le nouveau monde optimiste, c'est-à-dire vers l'Amérique du Nord et le Sud. Et cette musique est très expressive, très théâtrale. Traduit bien l'optimisme. Elle a quelque chose d'épique, de collectif. Elle a quelque chose un peu d'emphatique aussi. En tout cas, d'entraînant. Avec tous les cuivres, les trompettes, etc. Il y a quelque chose de glorieux qui n'est pas du tout dans la lignée de ce que nous avions entendu avec Fauré. Mmh. Qui était beaucoup plus intime et nuancé, qui était beaucoup plus tragique. Là, nous sommes dans le dramatique. On pourrait se croire sur une grande scène de théâtre ou d'opéra au Palais de Chaillot, TNP, Jean Villard, l'époque, disons, d'un projet collectif. Et donc, voilà, c'est un versant.
Qui n'est pas votre tasse de thé.
Disons que c'est un versant impressionnant, mais alors là, si on va de ce côté-là, je préfère l'Allemagne de Wagner. En tout cas, c'est ce genre de musique extrêmement, imposante, qui mettait en désespoir Paul Valéry. Il avait écouté le prélude de Lohengrin un jour. Et il avait dit à Gide le lendemain, cette musique m'amènera à ne plus écrire. Pourquoi? Parce que il disait, je subis la musique comme je subis la douleur et l'amour.
C'est beau.
Voilà, c'est très beau, n'est-ce pas?
Ouais.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Régis Debray, vous êtes l'invité de Musique et moi aujourd'hui, et on dresse votre portrait à travers vos goûts musicaux. Bilan de faillite, c'est votre dernier ouvrage. Un bilan de faillite, pourquoi? Bien sûr, on l'a dit, adressé à votre fils, mais qu'est-ce qui vous a conduit à cela, Régis Debray?
La comparaison entre mes rêves d'adolescence et les résultats du crépuscule. C'est-à-dire que les résultats n'ont pas été à la hauteur des projets. Voilà, le projet était de participer à une transformation du monde dans un certain sens, disons dans un sens axé vers la justice sociale, même en accord avec les libertés individuelles. Mais en tout cas, un projet politique de transformation du monde qui n'a pas eu lieu, tout simplement. Mais en ce sens, c'est la faillite à la fois d'une génération, d'une utopie, et aussi une faillite personnelle dans la mesure où je n'ai pas fait ce que recommandait Karl Marx lorsqu'il disait « il n'est plus temps d'interpréter le monde, il faut le transformer ». Moi, je l'ai interprété et mes interprétations n'ont rien transformé du tout. Donc, je t'ai amené à encourager mon fils à oublier... et la philosophie et la politique pour s'attaquer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la conquête de l'espace.
l'introduction de la Missa Criolla d'Ariel Ramirez par l'Orchestra Indo-Americana, le Collegium Musicum de Buenos Aires, sous la direction de Oscar Cardoso Ocampo. Régis Debray, c'est une œuvre que vous avez déjà citée tout à l'heure comme étant une œuvre sacrée, n'est-ce pas, qui vous plaît?
Écoutez, c'est un sacré, non pas profané, mais c'est un sacré qui a atterri ici-bas dans les luttes collectives de l'Amérique latine dans sa version andine ou argentine. Et c'est donc à la fois pour moi un moment de l'histoire, c'est le moment, si vous voulez, de la théologie de la libération. C'est une musique qu'a dû écouter de nombreuses fois le pape François, même s'il a un peu tempéré la théologie de la libération qui était subversive, conquérante. Il l'a tempéré par la théologie du peuple. Mais en tout cas, c'est une musique pour lui. Et ce fut une musique pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais je ne suis pas le seul. Par exemple, vous avez entendu là la flûte basse, la flûte andine. C'est ce qui donne le sentiment d'un homme essoufflé. Un homme d'un souffle humain, mais d'un souffle humain non pas plaintif, mais qui ne va pas de soi. Pourquoi? C'est ainsi que marche un homme lorsqu'il monte à 5000 mètres. Il est essoufflé.
Ouais.
Les Andins, même s'ils ont un autre souffle que nous, ils gravissent des montagnes ou ils traversent des hauts plateaux. Et Romain Gary a fait de cette flûte andine, je dirais, la musique de fond de Claire de Femme. C'est la musique qu'écoute Romy Schneider dans le film de Costa Gavras, tiré de Claire de Femme. Et pour Romain Gary, qui a tourné un film au Pérou, rappelez-vous, ça lui évoquait cette atmosphère d'un air raréfié, mais très pur, où les hommes ont un peu de mal à marcher.
Vous gardez vous-même ce souvenir?
Ah oui, bien sûr, je garde le souvenir. J'ai fréquenté tout de même le monde andin, bolivien, péruvien, colombien. Et oui, là, il faut s'imaginer des hommes à poncho et à petites sandales de cuir,
ouais, hein,
et qui mastiquent de la coca.
Pour tenir debout.
Pour tenir debout, parce que le travail des mines et même la traversée de ces hauts plateaux demande beaucoup de peine. Ce sont des hommes qui sont à la peine, mais qui ont de l'espoir au fond d'eux-mêmes.
Vous, quand vous êtes rentré de cette Amérique latine et du Sud, Régis Debray, vous êtes rentré en état de peine, essoufflé vous-même?
Non, j'étais encore plein d'allant, je dirais même d'élan, mais c'était un élan qui tout de même voulait se souvenir de l'élan chilien, par exemple, de l'élan qu'avait donné le grand mouvement de l'unité populaire au Chili dans les années 70.
Puisque vous avez été aux côtés d'Allende, hein.
Voilà, et j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui s'est tué lui-même pour ne pas survivre à ce qui aurait pu être son humiliation par la junte militaire, à cet homme au fond qui a conclu comme il fallait à la romaine une épopée qui a trouvé devant elle les États-Unis d'Amérique.
Les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprétées par Glenn Gould dans la version 1982. Régis Debray, vous êtes l'invité de Musique et Moi aujourd'hui. Et c'est une œuvre que vous écoutez pour vous détendre, je crois, n'est-ce pas ?
Non, pour me demander si j'écoute Bach ou si j'écoute Gould. C'est-à-dire que, bon, je n'ai aucune compétence pour disséquer l'émotion qu'inspire cette musique, l'incorrigible émotion musicale, mais tout de même, il y a là un problème quand on m'a appris que Gould avait remplacé le clavecin par le piano. Premier point. Quand on m'a appris que le jeu très perlé de Gould était magnifique, techniquement impeccable, mais beaucoup plus rapide que celui de Léonard, par exemple. Et donc là, la question est de savoir si dans ce style très émotif et très émouvant, est-ce que la personne l'emporte sur le contenu ? Alors c'est vrai que Bach, c'est une musique pure, c'est une musique tellement bien architecturée, tellement impeccable, qu'elle en devient atemporelle. Et donc on peut tout faire avec elle, c'est-à-dire la transposer avec sur divers instruments. Mais tout de même, Gould était une star. Il s'est vécu comme une star, enfin c'est... Il y a toute une légende de Gould que vous connaissez mieux que moi, bien sûr. Mais enfin, il est incontestable qu'il se mettait en scène et que son Bach à lui n'est peut-être pas le Bach, je dirais, originaire.
Mais est-ce que ça vous pose un problème à vous ?
Non, non, ça pose un problème aux sociologues de la musique. Et moi, je ne suis pas du tout... Je suis très touché par... par ce tempo, je suis très touché par cette perfection d'exécution. Non, il y a quelque chose de très émotionnel dans tout ça. Mais ça pose le problème de l'interprète, voilà. Bon, mais quand même musicien puisse, quand même compositeur puisse avoir plusieurs interprètes, c'est peut-être une preuve de la solidité et de la beauté de la composition.
C'est vrai.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Régis Debray, j'avais envie de citer un passage de votre dernier ouvrage, Bilan de faillite, parce qu'on parlait de musique, et vous avez un style très rythmé, si ce n'est musical. Très rythmé, et donc j'avais envie de citer cet extrait de quatrième chapitre. J'ai enfilé la défroque en rentrant au bercail dans les années 70, de 1900. Mains à charrues, à calache, à plumes, on n'était pas encore sorti du siècle à main, et tenir un stylo m'était plus doux qu'un AK-47. Les dieux, cette fois, me seraient tout sourire. La partie se jouerait en famille, entre ennemis de même ascendance, même trou de mémoire, même sous-entendu, même couteau à poisson. Fort d'un brin de réputation, le vague maître des peuples insurgés poursuivrait sa mission à domicile avec attaché-caisse, cravate et discours en trois points, environnement oblige, mais sans rompre ses vœux, la culture du débat, c'est encore de la guerre pourtant de paix, du lin candide enfilé sur un treillis.
Non, écoutez, je ne sais pas faire du piano, mais j'essaye d'en faire avec les mots.
Qui illustre effectivement la rythmique, la musicalité.
Je suis très soucieux du rythme, et parfois un peu trop, des assonances, des allitérations, disons. Il y a une part de jeu aussi, hein. Mais c'est un plaisir de faire chanter les mots.
Un extrait de Benjamin Dernière Nuit de Michel Tabachnik et vous, Régis Debray. C'est un opéra que vous avez créé à Lyon, grâce à Serge.
À Lyon.
Oui, à Lyon, grâce à Serge Dornier qui vous l'a commandé, je crois.
Oui.
C'est une collaboration, c'est votre première fois en tant que librettiste, je crois.
Oui, j'aimerais que ce soit pas la dernière, même si le librettiste est toujours un peu, je dirais, occulté ou il est toujours à l'ombre d'un musicien. Et là, j'étais très content d'être dans l'ombre de Michel Tabachnik, qui a fait une très belle musique, très contemporaine et malgré tout très prenante. Un livret qui était au départ une pièce de théâtre que j'avais écrite.
Au sujet de Walter Benjamin, c'est ça?
C'était en effet la reconstitution de la vie de Walter Benjamin, dans l'esprit de Walter Benjamin, La nuit de son suicide.
Oui.
Et donc, ça se passe à Portbou, en 1940, et on voit défiler tous les principaux épisodes, que ce soit en Allemagne, en Russie, en France, de la vie de Benjamin. Et là, nous avons écouté le chauffard juif traditionnel, remodelé, reformé, amplifié par Michel Tabachnik au moment où les amis de Benjamin vont être pris par la Gestapo, etc. Il y a une sorte de... C'est un moment très, très émouvant. Et ce fut un opéra magnifique, mis en scène par un Anglais, John Foley James, qui dirige Covent Garden et qui était venu à l'invitation de Dorny pour faire une admirable mise en scène. Alors, moi j'étais un peu dépassé par les événements, parce que j'avais écrit une petite pièce, ce que Brecht appelait un petit format, ou pour éventuellement un pianola et un violon sur la scène, et puis tout d'un coup, un orchestre symphonique, et ça m'a été à la fois décontenancé, ébloui, et reconnaissant aussi bien au directeur Dorny que... au compositeur Tabachnik, voilà.
Et par rapport au travail d'écriture qu'on évoquait tout à l'heure, juste avant d'écouter cet extrait, est-ce que ça a supposé de travailler l'écriture autrement, Régis Debray?
Oui, alors là, il fallait écrire en rythme, si j'ose dire, avec peu de mots, il fallait trouver un martèlement, il fallait trouver un rythme qui soit le plus expressif possible. Oui, moi, c'est un bon souvenir. De toute façon, j'aime tout ce qui peut brimer, c'est-à-dire tout ce qui peut contraindre. C'est-à-dire, j'aime beaucoup être astreint à des règles qu'impose tel ou tel médium. C'est une discipline, c'est une assaise, et généralement, au lieu de perdre, on y gagne.
La marche royale du deuxième tableau de l'histoire du soldat de Stravinsky, Régis Debray, on parlait de rythme, de rythmique, d'écriture, comment concilier l'écriture avec la musique. Voici un exemple parfait, là c'était juste instrumental. Mais l'histoire du soldat cumule ces deux qualités.
Bah, je dois vous avouer avoir été très dépaysé par cette musique, moi qui étais soit dans la musique romantique ou rêveuse, un peu sonate au clair de lune, soit dans la musique sacrée. J'avais été déconcerté par le côté, comment dirais-je, grinçant, un peu acide, un peu sec, un peu anguleux de cette musique, qui est au fond une musique cubiste. Et d'ailleurs, c'est tout à fait contemporain du cubisme. Et puis, je m'y suis fait, voilà, et comme quoi l'oreille peut s'éduquer lentement, en remettant dans son moment esthétique et historique cette musique de Stravinsky, qui est contemporaine de Picasso, et du Picasso cubiste.
On va se quitter, Régis Debray. J'ai envie d'inviter les auditeurs, bien sûr, à lire Bilan de faillite. J'aurais pu lire presque tous les chapitres, nos auditeurs, tant le rythme et le contenu m'ont passionné. Un grand merci à vous d'être venu. Un bilan de faillite dont on espère un deuxième bilan. Parce que le côté un peu testamentaire est regrettable.
Oh, il peut y avoir plusieurs testaments. Oui, on peut faire en décodicille.
En tout cas, ce qu'on en retient, c'est ce que vous-même en retenez finalement, qu'au fond, si je vous ai bien compris, c'est bien de s'intéresser aussi à son bonheur.
Écoutez, c'est bien de saluer la vie telle qu'elle nous a été offerte, parce qu'au fond, on méritait peut-être pas ce cadeau que de naître. Après tout, on aurait pu ne pas naître. Et on a connu des moments où on s'est parfois oublié soi-même, dépassé soi-même, et ce sont des moments, d'abnégation et d'élancement vers un ailleurs, vers un futur. Rien à regretter.
Gracias a la vida.
Gracias a la vida.
Voilà, c'était pour vous quitter. J'avais envie de vous offrir cette chanson signée par Violeta Parra, qu'elle a interprétée juste avant de décider de partir. Quelqu'un que vous avez peut-être bien connu, Violeta Parra?
J'ai connu la famille Parra, et notamment son fils Angel.
Un grand merci, Régis Debray.
Merci à vous.
À une prochaine fois, j'espère.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
C'était Musique et moi en compagnie de Régis Debray, qui a signé Bilan de faillite chez Gallimard et qui était tout l'été sur France Inter avec Un été avec Valérie, des pastilles que vous pourrez retrouver bien sûr en podcast. Je remercie Bruno Mourlan qui était à la prise de son ce matin. Un grand merci à Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Très belle semaine, à dimanche prochain.
France Musique.